Sur la table.
Dialogue autour de l'Évangile avec André Choquette
et Georges Convert.
Évangile de Jésus selon l'écrit de Matthieu, texte de la liturgie catholique pour le 16e dimanche. Jésus leur propose une autre parabole. Il dit
« Le règne des cieux se compare à quelqu'un qui sème de la belle semence dans son champ. Pendant que les gens dorment, son ennemi vient et sème par-dessus des ivraies, des isanies, au milieu du blé, et il s'en va. Quand l'herbe germe et produit l'épi, alors les ivraies apparaissent aussi. » Les serviteurs du maître de maison s'approchent et lui disent
« Seigneur, n'est-ce pas de la belle semence que tu as semée dans ton champ? D'où vient alors qu'il y ait des ivraies ?»
Il leur déclare
« C'est quelqu'un ennemi qui a fait cela. »
Les serviteurs lui disent
« Veux-tu que nous partions les ramasser ?»
Il déclare « Non, par crainte qu'en ramassant les ivraies, vous déraciniez avec elles le blé. » Laissez-les croître toutes les deux ensemble jusqu'à la moisson. Au temps de la moisson, je dirai aux moissonneurs, ramassez d'abord les ivraies et liez-les en bottes pour les brûler, mais rassemblez le blé dans mon grenier. »
Il leur propose une autre parabole. Il dit,
le règne des cieux est comparable à une graine de moutarde que quelqu'un prend et sème dans son champ. C'est certes la plus petite de toutes les semences. Mais quand elle a grandi, c'est la plus grande de toutes les plantes potagères. Elle devient un arbre, au point que les oiseaux du ciel viennent faire leur nid dans ses branches.
Il leur dit une autre parabole.
Le règne des cieux est comparable à du levain qu'une femme prend et cache dans trois grandes mesures de farine jusqu'à ce que tout est levé.
Tout cela, Jésus le dit en parabole aux foules, et ne leur dit rien sans parabole. De la sorte, la parole dite par le prophète est accomplie. J'ouvrirai ma bouche en parabole. Je proférerai des choses cachées depuis la fondation du monde. Alors, il laisse les foules et va à la maison. Ses disciples s'approchent de lui et lui disent
« Explique-nous la parabole des ivraies du champ. »
Il répond et dit,
« Celui qui sème la belle semence est le Fils de l'homme. Le champ est le monde. La belle semence, ce sont les fils du règne. Les ivraies, ce sont les fils du mauvais. L'ennemi qui les a semés, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du temps. Les moissonneurs sont des messagers de Dieu. » Comme les ivraies sont ramassées et brûlées au feu, de même en sera-t-il à la fin du temps. Le Fils de l'homme enverra ses messagers, et ils ramasseront hors de son règne toutes les occasions de chute et tous les fauteurs d'injustice. Ils les jetteront dans la fournaise du feu, là seront les pleurs et les grincements de dents. Alors, les justes resplendiront comme le soleil dans le règne de leur Père. Qui a des oreilles, qu'il écoute. »
Bonjour Georges.
Bonjour André.
Le règne des cieux se compare à... Qu'est-ce que cette expression « règne des cieux » évoque à notre esprit? Jésus aujourd'hui aurait-il un autre langage? En Occident, la majorité de la population du 21e siècle ne sera plus rurale. Comment comprendre ces comparaisons qui étaient appropriées à la Palestine du 1er siècle? Voilà peut-être, Georges, quelques questions qui se posent à nous.
Eh bien, regardons d'abord où nous sommes dans le texte de Matthieu. Nous sommes dans cette série des paraboles que l'évangéliste Matthieu a rassemblées dans le chapitre 13. Ce sont sept paraboles les paraboles du semeur, de l'ivraie, du grain de moutarde et du levain, du trésor et de la perle, et du filet de pêche. Ces sept paraboles concernent le succès et l'échec du règne de Dieu, et, par conséquent, le succès et l'échec du règne de la mission de Jésus. On se souvient en effet que l'essentiel du message de Jésus concerne ce qu'il appelle le règne. Les évangiles résument les débuts de sa mission par ces mots « Faites un retour vers Dieu, le règne de Dieu est proche ». Eh bien, si l'on en croit à la finale de ce chapitre 13, la mission de Jésus se solde par un certain échec. C'est là en effet que Matthieu a placé l'épisode de la prédication de Jésus dans la synagogue de Nazareth, un épisode qui se résume par ce proverbe « Un prophète n'est méprisé que dans sa patrie ». Notre texte de ce 16e dimanche s'inscrit donc dans ce questionnement. Comment expliquer que Dieu semble impuissant à faire triompher l'amour sur la terre?
Qu'est-ce que peut évoquer le mot « règne » dans la tête des auditeurs de Jésus?
Mais on ne peut bien comprendre l'expression si on ne se reporte pas à la naissance même du peuple d'Israël. Donc, 1200 ans avant Jésus, Moïse va tenter de réunir les tribus qui ont pour ancêtre Abraham. Il veut en faire un peuple. Et il va faire ce peuple en le rassemblant autour de la Torah, de ses 10 grandes maximes, ne sers pas d'autre Dieu que le Dieu unique, honore père et mère, ne deviens pas esclave du travail, ne tue pas, ne vole pas. Ces 10 grandes règles qui viennent de Dieu et que nous, catholiques, nous appelons les commandements de Dieu. Voilà ce que Moïse propose à ses tribus. Être un peuple. Et être un peuple qui n'a pas d'autre guide, d'autre roi que Dieu. C'est ce qu'on appelle une théocratie. Dieu se propose donc d'être le seul et véritable roi du peuple, d'un peuple qui va vivre selon la règle de vie donnée par Dieu. Le peuple juif se définit donc comme un peuple dont Dieu est l'unique roi. Et voilà donc l'expérience qui est derrière le mot de règne de Dieu. Mais il y a dans la famille juive une autre expérience. C'est le père qui est chargé de faire connaître à ses enfants la règle, la Torah. Alors puisque c'est Dieu, roi, qui a donné cette Torah au peuple, et que c'est le Père qui apprend la Torah à ses enfants, Dieu va donc être vu comme le Père, le véritable Père du peuple. Bien des prières juives, d'ailleurs, commencent par ces mots « Notre roi et notre Père ». On peut donc dire que pour un juif du temps de Jésus, le règne des cieux, c'est comme la grande famille du Dieu roi et Père. L'expression des cieux, d'ailleurs, ne renvoie pas à quelque chose qui va être au-delà de la mort. Elle est employée pour dire de Dieu, puisque l'on sait que les Juifs ne prononcent pas le mot Dieu. Les paraboles de Jésus vont donc être comme l'illustration de ce que doit être ce peuple, cette famille, que Dieu, en roi et en père, veut rassembler dans l'amour.
Que veut donc nous dire la parabole de l'ivraie?
Alors, il faut peut-être rafraîchir notre mémoire. Qu'est-ce que c'est que de l'ivraie? Eh bien, c'est une herbe, et qui était d'ailleurs un des fléaux de l'agriculture de l'époque. On peut dire qu'elle était le calvaire des fermiers. En effet, cette herbe ressemble à s'y méprendre au blé. Il faut attendre que l'épi de blé se soit formé pour distinguer l'ivraie du blé. C'est peut-être à cause de cette ressemblance qu'en vieux français, l'ivraie s'appelle une zizanie. Le mot zizanie, on le sait, ça veut dire mettre la division. Eh bien, on sème la zizanie quand on met la division entre des gens au sein d'un groupe. Dans le livre des Proverbes, on trouve d'ailleurs ce proverbe, le fourbe sème les querelles, le calomniateur divise les amis. Et il est aussi très difficile de séparer les ivraies des vrais blés, parce que les racines sont tellement entrelacées que lorsqu'on arrache l'ivraie, eh bien on arrache aussi le blé. Dans la loi romaine, semer de l'ivraie dans le champ du voisin était considéré comme un crime. Et de nos jours encore, en Inde, semer de l'ivraie dans le champ du voisin, c'est la pire chose dont on puisse menacer son ennemi. Alors ce n'est donc qu'au temps de la moisson que l'on pourra couper le blé sans couper l'ivraie. Et pourquoi ? Eh bien parce que l'ivraie est beaucoup plus petite, elle ne mesure qu'environ 10 à 12 pouces, et donc il est facile de couper le blé sans atteindre l'ivraie.
Que pouvait signifier cette comparaison pour les auditeurs de Jésus ?
Eh bien, nous sommes à l'époque de Jésus, à une époque difficile de l'histoire d'Israël. Les Romains, on le sait, ont envahi, colonisé Israël depuis une centaine d'années. Et donc, Dieu ne règne vraiment pas sur son peuple, puisque Hérode, qui est le roi de la Galilée, n'est pas un roi messie consacré par Dieu. Il est nommé par l'occupant romain, par Rome. Cette situation, pour beaucoup de juifs, elle est vue comme la conséquence du relâchement moral et religieux. Et en effet, certains juifs pactisent, collaborent avec les Romains, et cela est considéré comme une sorte d'idolâtrie, puisque les Romains ne reconnaissent pas le vrai, l'unique Dieu d'Israël. Les groupes religieux, très religieux, comme les pharisiens et les zélotes, attendent un roi messie, un roi consacré par Dieu qui va purifier la nation. Leur croyance voulait que le péché d'Israël disparaisse quand le règne de Dieu serait vraiment effectif dans le peuple. Ces groupes religieux puisent leur espérance dans certains passages bibliques. Nous allons écouter un passage du prophète Isaïe au chapitre 60.
« Ton peuple, rien que des justes, possédera le pays à jamais, œuvre de mes mains pour me glorifier. » Le plus petit deviendra un millier, le plus chétif une nation puissante. Moi, le Seigneur, en temps voulu, j'agirai vite.
Oui, ils ont en vue, ces groupes religieux, l'idéal d'une nation de purs, d'une nation de justes, qui exclurait tous les pécheurs. Peut-être que ce rêve a été aussi celui de Jean le Baptiste. Rappelons-nous ce qu'il prêchait.
Le Messie tient en sa main la pelle à vanner et va nettoyer son air. Il recueillera son blé dans le grenier. Quant à la balle, il la consumera au feu qui ne s'éteint pas.
Eh bien, cette vision de ces groupes religieux ne semble pas du tout celle de Jésus. Lui, Jésus, fréquente les pécheurs publics comme les prostituées et les collecteurs d'impôts. Il va vers eux avec respect et affection et ne les condamne pas en les menaçant du feu de l'enfer. Il mange même à leur tête, ce qui est non seulement contraire aux bons usages, mais puisque la communauté de table est sacrée, on dit que la table est un autel où Dieu se tient. Eh bien, se tenir avec les pécheurs publics, c'est comme si on était comme eux. Qui s'assemble se ressemble, dit le proverbe. On traitera même Jésus de démon. Mais Jésus, lui, déclare ne pas être venu pour les justes, mais pour les pécheurs. Alors cela surprend sans doute Jean le Baptiste, au point qu'il va envoyer certains de ses disciples à Jésus pour lui demander « Est-ce que tu es bien le Messie qui doit venir ou bien est-ce qu'il faut qu'on en attende un autre ?» Jean s'étonne. Il lui semble que Jésus ne lutte pas avec efficacité contre le péché. Aux yeux de Jean, la miséricorde, oui, mais après la conversion. Il faut au contraire rappeler la crainte de Dieu et son jugement et ne pas compter seulement sur la liberté des gens pour qu'ils se convertissent et pour qu'on puisse éliminer les injustices et même la domination romaine. Jésus, lui, va expliquer et justifier sa conduite par la parabole de l'ivraie. Il dit qu'il faut laisser pousser blé et ivraie jusqu'au temps de la moisson, pour le temps qui est le nôtre. Il ne faut pas démêler le bon du mauvais. On ne peut pas démêler le bon du mauvais. La séparation, d'ailleurs, entre le bien et le mal se trouve dans le cœur de chaque être humain. C'est la tentation de tous les faux messianismes, de vouloir épurer la société en séparant les bons des mauvais. Cette attitude commence par la catégorisation, si on peut dire, des gens en deux camps. Il y a d'un côté ceux qui sont les bons et de l'autre ceux qui sont les mauvais. Il y a d'un côté ceux qui oppriment et de l'autre côté il y a les opprimés. Il y a d'un côté ceux qui pratiquent des injustices et de l'autre côté ceux qui les subissent. La perspective est de vouloir empêcher les mauvais de nuire, de vouloir les mettre hors d'état d'accomplir leurs méfaits. Il faut avouer que parfois cela peut nous sembler sage, surtout que, en général, à ce moment-là, on ne se pose pas la question de savoir de quel côté on se trouve. On est forcément du côté des bons, des purs, des justes. Mais, plus profondément, cette tentation peut en effet apparaître légitime. Comment est-ce que nous réagissons, nous, devant des petits-enfants affamés, leur ventre ballonné, le visage assailli par les mouches porteuses de mort? Et cela parce que des chefs ambitieux se livrent à des guerres sans merci. Est-ce qu'on peut laisser les hommes du mal continuer leurs méfaits en étant impunis? Comment est-ce que nous réagissons devant tant de jeunes du Cambodge mutilés, les jambes arrachées par des mines antipersonnelles? Et cela par la folie de Khmer Rouge, assassins de millions de leurs compatriotes, mais aussi à cause de ceux qui produisent ces mines antipersonnelles. Peut-on laisser les hommes du mal continuer leurs méfaits impunis? Et devant tant et tant de jeunes qui se détruisent aujourd'hui par la drogue, parce que cela fait la fortune de mafieux sans scrupules, et devant ces tout jeunes, qui sont pourtant promis à la beauté de l'amour et qu'on a arrachés à leur famille pour en faire des appâts de prostitution à la disposition d'hommes honorables que l'argent et la vanité ont avilis. Est-ce qu'il faut laisser les hommes du mal continuer leurs méfaits impunis? Est-ce qu'il n'est pas, au contraire, anormal d'attendre et de reléguer au calendrier grec le jugement justicier? Est-ce que ce n'est pas une lâcheté, une compromission que de se taire et de ne pas agir? Et en invoquant pour ce silence, pour cette inaction, qu'il y va de nos intérêts économiques bien compris, le silence des bien-pensants n'est-il pas une faute plus grave encore que tous les crimes des malfaisants?
Quelle est donc la réaction de Jésus en face de ceux qui font souffrir leur prochain?
Eh bien, la réaction qui nous semblerait normale, c'est peut-être celle du Baptiste, sa virulence contre les auteurs du mal, sa hâte de voir la justice enfin devenir juste. Écoutons-le qui crie.
Engeance de vipère, qui vous a montré le moyen d'échapper à la colère qui vient? Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits va être coupé et jeté au feu.
Oui, devant la souffrance des humbles et des innocents, est-ce qu'on ne peut pas penser qu'il y a des colères saintes qui sont plus catholiques que les raisonnements des raisonnables? Le Magnificat de la Vierge Marie n'a-t-il pas aussi des accents de justice?
Je chante à pleine voix la grandeur du Seigneur, car il est intervenu de toute la force de son bras. Il a dispersé les orgueilleux et jeté les puissants en bas de leur pouvoir.
Oui, pour ne pas être des tièdes et des indifférents, est-ce qu'il ne faut pas espérer des gestes justiciers et attendre le jour du jugement de Dieu? Est-ce qu'il ne faut pas espérer que Dieu viendra pour faire un jugement contre les violeurs d'enfants, les étrangleurs de pauvres, les affameurs, les exploiteurs des humbles? Espérer que Dieu se prononcera enfin contre ceux qui manipulent les consciences, qui jouent avec la vie des autres? Et ceux-là sont légions comme les démons dans l'Évangile. Et pourtant Jésus, qui sait être terrible au mal et ne pas mâcher ses mots pour dénoncer l'injustice, qui ne réfrène pas ses colères contre ceux qui marchandent la relation la plus sainte, qui est celle que l'on a avec Dieu. Pourtant, Jésus ne veut pas appeler la colère divine sur les malfaisants. Ainsi, on le voit réprimander Jacques et Jean, qui veulent faire descendre le feu du ciel sur un village de Samarie qui a refusé de les accueillir. Et que répond Jésus aux envoyés de Jean le Baptiste?
Allez rapporter ce que vous avez vu. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent.
Voilà mon action, leur dit Jésus. Je veux guérir les corps et les cœurs, car je suis venu non pas pour juger et condamner, mais pour sauver. Déjà à la synagogue de Nazareth, Jésus avait indiqué quelle serait sa mission.
L'Esprit du Seigneur est sur moi pour proclamer la libération des captifs, le retour à la vue des aveugles, pour déclarer l'an de grâce ouvert par le Seigneur Dieu.
Et Jésus avait arrêté à cet endroit sa lecture, alors que le texte d'Isaïe qu'il était en train de lire se terminait par la phrase « Il m'a envoyé proclamer le jour du jugement de Dieu ». Cette omission de Jésus, de l'évangéliste, n'est probablement pas un oubli. Jésus s'arrête sur l'an de grâce, c'est-à-dire sur le temps du pardon et de la miséricorde. Pour lui, Jésus, Dieu, est celui qui n'a de cesse de vouloir faire grâce, de vouloir pardonner pour restaurer la communion entre lui et l'être humain, pour réaliser l'unité et la communion entre les êtres humains. Dieu est celui qui pardonne aujourd'hui et demain, 70 fois 7 fois, c'est-à-dire toujours. Pour Dieu, le pardon n'est pas l'oubli de notre faute. Oublier, ce serait au contraire se rendre incapable de pardonner, car le pardon est une guérison, c'est un amour qui refait le cœur. Le pardon, c'est un combat de l'amour, une lutte incessante pour nous arracher au mal, pour nous recréer dans notre beauté de fils et de filles de Dieu. La miséricorde de Dieu n'est pas faiblesse ni indifférence devant le mal. La patience de Dieu devant ceux qui font le mal est au contraire une passion ardente, aux deux sens du mot passion, un amour fort et aussi une souffrance. Cette souffrance que l'abbé Pierre appelle l'agonie d'aimer. Et à notre tour, nous ne pouvons choisir de ne pas juger, de ne pas condamner les malfaisants que si, d'abord, nous choisissons de devenir des combattants de la miséricorde. Nous ne pouvons choisir de réfréner notre colère que si, d'abord, nous choisissons d'être des souffrants de la non-violence aimante. À la suite de Jésus, nous devons être des artisans de réconciliation, des hommes et des femmes qui portent au plus profond de leurs entrailles le désespoir de celui qui ne peut plus espérer car il n'est pas aimé, la souffrance de celui qui a trop souffert et souffert injustement. Oh certes, l'ivraie est présente dans notre vie. Il n'est pas vraiment d'humain parfaitement juste. Il y a dans tout cœur humain un mélange de blé et d'ivraie, de bien et de mal. Tout ce qui que nous soyons, nous avons notre part de responsabilité dans le mal qui sévit en ce monde. Le frère Christian, ce moine, assassiné en Algérie, écrivait dans son testament.
J'ai suffisamment vécu pour me savoir complice du mal qui semble, hélas, prévaloir dans le monde.
Mais pour Jésus, le seul vrai moyen de lutter contre le mal n'est pas la justice et ses châtiments. Pour lui, ce n'est qu'avec l'amour de Dieu que nous pouvons lutter contre le mal, pauvre, pauvrement, humblement, mais avec passion. Montrez-vous plein de miséricorde comme votre Père, ne jugez pas, ne condamnez pas. Oh certes, Jésus ne nie pas le jugement du mal, mais il parle le plus souvent du jour du jugement comme le terme final, la fin des temps.
Ce jour ou cette heure, personne ne les connaît, ni les anges dans le ciel, ni le Fils, personne sinon le Père.
Et l'on peut sans doute comprendre que ce jugement ne sera pas d'abord une sentence divine de punition, mais plutôt la prise de conscience par le pécheur des conséquences de sa faute. Et des conséquences qui semblent d'autant plus irréparables que la faute est plus consciente et plus volontaire. Qu'est-ce que l'enfer ? Se demande Dostoïevski dans Les Frères Karamazov. C'est la souffrance de ne plus avoir le droit d'aimer, ou la capacité d'aimer. Malgré qu'il soit tout amour, Dieu en effet ne peut pas nous créer à la fois libres et en même temps incapables de pécher, de fauter, pas plus que Dieu ne peut faire un cercle carré. Mais Dieu, lui, ne peut pas cesser de nous aimer. Et l'attitude du disciple de Jésus est bien résumée dans cette première lettre de Jean.
Et nous, nous avons reconnu l'amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. Dieu est amour. Celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. En ceci consiste la perfection de l'amour en nous, que nous ayons pleine assurance au jour du jugement, car tel est celui-là, tel aussi nous sommes en ce monde. Il n'y a pas de crainte dans l'amour. Au contraire, le parfait amour bannit la crainte, car la crainte implique un châtiment. Et celui qui craint n'est pas parvenu à la perfection de l'amour.
Voilà la conviction de Jésus. Contre les malfaisants, contre ceux qui font le mal, la force et la puissance ne peuvent pas grand-chose. C'est l'amour et son apparente faiblesse qui peut guérir le cœur. Et cela se trouve illustré dans les deux paraboles de la graine de Sénévé, la plus petite des graines, et du levain dans la pâte. Un tout petit peu de levain pour transformer la grande pâte. Trois mesures de farine, dit le récit de Matthieu, ce qui correspondrait à la mesure nécessaire pour nourrir plus de 150 personnes. Et de même, la graine de moutarde deviendra un arbuste de 10 à 12 pieds, capable d'abriter tous les oiseaux du ciel, c'est-à-dire toute la famille des fils et des filles de Dieu. Et cette famille de Dieu ne comprendra pas seulement les membres du peuple juif, mais les gens de toute nation. Voilà, Jésus, à travers ses paraboles, dit l'espérance qui est la sienne. La famille de Dieu, le règne de Dieu, se construit sans bruit, dans le respect des consciences, avec la seule arme de l'amour. Et cet amour de Dieu s'étend à tous, mais cet amour est un fini respect de ceux et celles auxquels il s'adresse. La mission de Jésus, et celle de ceux qui se mettent à sa suite, n'est pas d'enrôler à tout prix, mais de tisser des liens de communion. Et lorsque cette mission ne se fait plus dans cet esprit d'humilité et de passion, la mission se dégrade en propagande ou en conquête. « Pomme pourrie gâte le panier », dit le proverbe. Le pari de Dieu est inverse, c'est la pomme saine qui purifiera les mauvaises pommes. C'est le saint, porteur d'amour, qui apporte le salut à ceux qui ont été privés d'amour et qui font le mal parce qu'ils ont mal. C'est la grâce de Dieu, avec le temps, qui donne le salut au monde.
C'était Du pain sur la table, une émission de l'École de la foi ou du Catéchuménat de Montréal. Si vous désirez le texte de l'émission ou la cassette audio, téléphonez au numéro 514-254-8750.
514-254-8750. Vous pouvez aussi vous abonner pour 3 mois, 6 mois, 1 an. Téléphonez-nous, nous vous donnerons les prix des abonnements. Vous nous trouverez aussi sur Internet. Téléphonez-nous, nous vous donnerons l'adresse de notre site.
Du pain sur la table est diffusé le samedi à 8h30 et à 23h. Choix musical et enregistrement Jean B. Duchaud.
Chers auditeurs et auditrices, à la semaine prochaine. Ne laissons pas le pain sur la table sans en faire notre nourriture.